Chapitre 3e. Une aubade. Une lettre de M. de Lassy avait prévenu depuis 8 jours Joseph Platon de cette arrivée. Elle lui annonçait les intentions de M. le contrôleur général au sujet de la nouvelle hôtesse qu'allait recevoir l'habitation. M. de Boulogne enjoignait à Platon de lui obéir en tout et comme à lui-même, de ne lui adresser jamais la parole qu'avec le plus grand respect. Il ajoutait que tous les gens qu'elle amènerait à sa suite devait être considéré sur le même pied par Joseph Platon, qu'il entendait lui faire recevoir à Saint-Domingue les mêmes honneurs que lui-même y avait reçus à son premier voyage, dont la date remontait à 1744, que pour elle la maison fut garnie de tout au monde et qu'elle attendit tranquillement la visite des autorités au lieu de la prévenir. Cette missive avait assez d'importance pour que le gérant de l'habitation de la Rose y réfléchît mûrement. La conduite de ses affaires ne lui parut guère embarrassante. Façonné depuis sa naissance à la soumission, il augura heureusement de cette nouvelle pour son avenir, forma le projet de se rendre nécessaire, de gagner l'esprit de Madame la Marquise de Langeais, si bien qu'elle ne pourrait plus se passer de lui. En un mot, il envisagea la chose plutôt comme une bonne fortune que comme un embarras qui lui survenait au milieu de cette douce et grasse oisiveté qui faisait sa vie. Pour les embellissements intérieurs, comme cela demandait du temps et que Joseph ignorait d'ailleurs le goût de Madame la Marquise, l'honnête gérant jugea prudent d'attendre un peu. Il se contenta de faire assurer les parquets et les solives des chambres, donna ses ordres pour qu'on enlevât les toiles d'araignée, que l'on réparât les nattes et les boiseries, criblées d'insectes. Il décora le maître d'hôtel, à sa demande, d'une belle livrée neuve et daigna même manger, par forme d'essai, plusieurs excellents pâtés de venaison dus au génie de ce commis sexagénaire, ancien chef du maréchal de Saxe. À l'égard du programme de cette fête, il l'élabora sérieusement. Il résolut d'y apparaître d'abord en acteur principal et de s'y faire entendre comme violon au milieu de tous ces noirs. Pour arriver à son but, il repassa toutes ses symphonies, ce qui effraya les oiseaux de ses bocages pendant un grand mois. Plus d'une pintade domestique en tressaillit. Plus d'un noir s'imagina que le diable Urica lui-même donnait des leçons à cet Orphée. En un mot, Joseph n'épargna rien pour satisfaire à la pompe qu'exigeait pareille occasion. Ce plan de réception, digne en tout de Madame la Marquise de Langeais, fut contrarié malheureusement par l'orage. Elle arriva la nuit, par un temps affreux, peu propre à la mettre en belle humeur. On ne l'attendait que le 20 juin et elle arriva le 7. Les premières lueurs du matin qui éclairaient le désastre ne lui offrirent que de tristes images. Elle aurait pu compter par les croisées de la grande case les arbres déracinés, les feuilles de bambou surnageant au-dessus des rigoles, les lianes inclinées douloureusement, les ravines remplies de boue et de sable. La nuit, malgré la moustiquaire, le bruit de la bigaille avait troublé son sommeil. L'ondée avait ruisselé par les vitres et les cris des négrites l'avaient effrayée. Tout le monde se trouvait aux plantations dès les premiers coups de la foudre. Il ne s'était guère présenté pour la recevoir que le vieux maître d'hôtel, qui n'avait pu lui apprêter que quelques calalous. On l'avait reçu sans tirer un coup de fusil, ce qui était un mauvais présage. Aucun nègre enfin n'était venu au-devant d'elle, et c'était à peine si le maître d'hôtel lui avait su trouver un lit. Comme pour l'indisposer encore, dès que le chant du coq éveilla l'écho, M. Joseph Platon, qui voulait réparer le temps perdu, se mit en devoir de rassembler au son du tambour les noirs et mulâtres esclaves de la Rose qui accoururent tous, comme une troupe de pintades, sous les fenêtres fermées du balcon. Brossés, poudrés, épinglés, à l'instar d'un bailli d'opéra comique, Joseph Platon les conduisait, escorté du maître d'hôtel qui, pour réparer son souper indécent de la veille, était suivi lui-même d'une douzaine de négrillons porteurs du plus rare gibier et des plus beaux fruits. L'attelage de la marquise demeurait encore exposé au regard des curieux, sous une des remises de la grande case, embarrassé des cordes qu'emploient les postillons nègres, cordes souillées par la boue de la veille, et dont le seul éraillement prouvait assez que la voiture avait traversé les chemins les plus épineux. Un noir, étranger à l'habitation, était déjà occupé à nettoyer dans la cour cette magnifique voiture, déballée sans doute l'avant-veille de quelques navires, et dont la seule caisse en vernis martin colorié Maud, très en vogue à cette époque, au plus beau Longchamp de Paris, pouvait bien valoir 30 000 livres. Le noir étranger, tenant en main son étrille, regardait cette députation avec assez de calme quand Joseph Platon lui fit demander s'il ne venait pas se joindre à eux pour l'aubade. On lui présenta en même temps un bamboula et une flûte à son choix. Ce domestique refusa en disant que ce tintamarre allait déplaire sans doute à sa maîtresse, qu'elle était arrivée depuis 2 jours seulement de la Guadeloupe dans l'île et très fatiguée de la traversée. Joseph Platon fut sur le point d'arrêter l'élan général, mais comme le temps ne lui semblait pas entièrement sûr, il résolut de mettre à profit les premiers rayons de l'aurore et il fit signe à ses musiciens de partir en frappant la terre de son bâton à fouet, comme l'eût fait un maître de chapelle. Ce signal devint le prétexte du plus bruyant des charivaris. Tout l'orchestre noir en reçut le branle et ne tarda pas à remplir la cour de la plus indéfinissable musique dont une oreille humaine puisse être blessée. Ces dilettanti avaient mis en réquisition tous les instruments connus dans l'île, jusqu'aux chaudières de cuisine. La chanterelle agaçante de Joseph Platon y faisait entendre de véritables cris de sarcelles effarouchées. Le bruit de cette gamme assourdissante et continue monta jusqu'aux croisées en 1 seconde et réveilla en sursaut la marquise de Langeais. « Finette ! » cria-t-elle. « Donne vite la chasse à ces moustiques. Bah, jette-leur quelques piastres. Tu trouveras des bourses toutes prêtes sur cette table. » Finette, belle mulâtresse de 18 à 20 ans et femme de chambre de Madame la Marquise, descendit bien vite sur le perron pour exécuter cet ordre absolu. Elle fit voler les piastres au milieu du groupe avec une main digne d'une impératrice. Elle dit à Platon de faire retirer ses noirs et leur ferma elle-même la porte au nez. « Sachez donc, une fois pour toutes, ajouta Mademoiselle Finette au gérant tout ébahi, que Madame la Marquise ne se réveille qu'à 3 heures. À 3 heures, vous pourrez lui présenter vos devoirs. » Joseph Platon balbutia quelques mots d'excuse et sortira l'oreille basse. Comme il lui fallait se remettre un peu, il cingla, par contenance seulement, quelques coups de fouet aux musiciens les plus proches, et s'appuyant avec dignité sur le bras du maître d'hôtel, M. Printemps, il regagna l'office où le déjeuner d'habitude les attendait.